Voilà. Alors moi, je vais peut-être avoir un discours un petit peu différent dans la mesure où je suis principalement économiste et que j'étudie la finance islamique depuis une quinzaine d'années. Bon, d'abord sur le terrain turc, puisque j'ai vu l'installation de la finance islamique turque dans les années 90 et tout récemment, depuis moins de 3 ans en France, la finance islamique propose des produits islamiques qui s'adressent aux entreprises d'abord, dans un premier temps, et aux ménages musulmans français. Donc c'est quelque chose de tout récent, et je tiendrai à montrer justement comment s'élabore la norme halal dans une finance islamique qui est à peine embryonnaire. Voilà. Alors, que signifie la norme halal dans la finance islamique ? C'est tout simplement un comportement microéconomique, c'est-à-dire individuel, d'ordre privé. Voilà, il ne s'agit pas d'islamiser l'économie ni la finance dans son ensemble, bien sûr, nulle part. Même en Malaisie, la finance islamique ne dépasse pas 60% de la finance. Donc en fait, ce sont des choix d'individus qui choisissent de se conformer à une éthique économique musulmane qui est tirée du Coran, de la Sunna et de l'effort d'interprétation. Alors dans la finance islamique, il y a une difficulté supplémentaire par rapport à d'autres produits comme les produits alimentaires ou d'autres services touristiques. C'est d'une part qu'il y a une faible transparence, y compris dans la finance conventionnelle, donc à plus forte raison dans la finance islamique, première difficulté. Et deuxième difficulté, c'est qu'il est extrêmement difficile d'élaborer des produits islamiques en étant conforme à une éthique tirée du Coran, puisque évidemment les produits dérivés sont tellement nombreux, innovateurs, etc., qu'il est très difficile de se référer au texte. Voilà. Alors, si on reprend les principes de la finance islamique, bon, rapidement, on a 5 principes. Bon, un premier principe qui est l'interdit du riba coranique. Alors, riba étant interprété comme toute forme d'intérêt fixe et déterminé à l'avance. Ce qui ne veut pas dire que la finance islamique n'est pas rentable, elle est extrêmement rentable, mais il n'y a pas ce qu'on peut appeler proprement dit d'intérêt. Alors, le deuxième principe qui est le corollaire de ceci, c'est que l'intérêt est remplacé par un partage de profits et de pertes, qui est donc variable. Tout investisseur peut perdre, la banque peut perdre, elle n'a pas de garantie de revenu au départ, donc remplacé par ce qu'on appelle les 3 P dans la finance. Voilà, partage partage des profits et des pertes. Troisième principe, c'est l'interdit de l'incertitude, le messire, l'interdit de l'aléa, le garar. Alors Dieu sait si, hein, Dieu, voilà, c'est à tel point la spéculation table sur l'incertitude, sur le hasard. Bon. Donc ça veut dire que ici, les produits dérivés sont interdits. On ne peut pas revendre une dette qui peut-être ne sera pas honorée. Voilà, donc c'est difficile de concilier une finance spéculative avec un interdit du hasard et de l'aléa. Donc quatrième principe, en vertu de cela, toute activité de financement doit être adossée à un projet productif réel, tangible. On doit pouvoir se référer à un projet d'investissement. Bon, par exemple, une obligation islamique peut générer des loyers suite à la location d'un immeuble, mais on doit toujours pouvoir trouver quelle est l'origine productive et réelle du projet de financement. Enfin, dernier principe qui est plus classique, c'est l'exclusion des activités dites haram, bon, que vous connaissez, s'ajoutant dans la finance des choses comme la vente et l'achat de devises, de métaux précieux, puisque la monnaie ne doit avoir qu'une valeur instrumentale et ne doit pas avoir de valeur en soi. Alors, ça pose d'autant problème que dans la finance islamique, comment identifier ces activités haram ? Bon, évidemment, on ne va pas financer l'industrie porcine, c'est très clair. Par contre, on peut financer l'achat d'avions. Par exemple, Qatar Airways peut acheter des avions et par un financement islamique, donc ne passant pas par l'intérêt. Et il se trouve que dans ces avions-là, on sert de l'alcool à bord, par exemple. Donc comment faire pour remonter la chaîne ? Alors, il est toléré, usuellement, bon, surtout selon les standards de la Malaisie, 5% d'actifs financiers qui sont investis dans des activités haram, à condition de purifier, notamment par la zakat, ses activités. Alors la zakat, ça peut s'organiser dans une banque comme étant 1%, par exemple, des dépenses que vous effectuez par carte bancaire seront reversées sous forme de zakat. Donc il peut y avoir ces systèmes de purification dans la banque, voilà, si on a, par exemple, les financements haram. Alors, si je me centre sur le cas français, qui est donc très très nouveau, bon, actuellement en France, il n'existe aucune banque 100% islamique, contrairement à la Grande-Bretagne où on a une trentaine de banques. Voilà, en France, il y a deux formes de financement islamique. Il y a d'abord ce qu'on appelle des Islamic Windows, c'est-à-dire des guichets islamiques dans des banques conventionnelles. Pour l'instant, il n'y a qu'une banque conventionnelle marocaine, qui est la Shabi Bank, qui a donc créé un guichet islamique qui s'appelle la Shabi Harmonis, voilà, donc pour les ménages français, bon, depuis juin 2011, c'est très récent. Et il y a, deuxièmement, des financements ponctuels qui ont eu lieu. Alors, ces financements ponctuels ont eu lieu soit par des banques conventionnelles françaises, BNP Paribas, Société Générale, mais à l'extérieur du territoire métropolitain, c'est-à-dire au départ du Golfe, ou à La Réunion, où on expérimente des placements sur les ménages musulmans français. C'est un petit peu leur laboratoire. Mais pour l'instant, voilà, il y a eu quelques projets de financement ponctuels, par exemple le financement d'une maison en région parisienne pour M. Anelka, sportif de haut niveau, qui a été monté par une société 570 Asset Management, donc par un individu isolé. Mais on n'a pas véritablement de banque islamique en France pour le moment, alors que des agréments ont déjà été déposés. Alors, la question de la certification se pose, puisqu'elle est en pleine élaboration. Il n'y a pas de certification, pour l'instant, encore stabilisée en France sur le sujet. Alors, qui va élaborer ces opérations? Qui va contrôler la conformité religieuse? Puisque les clients de la banque, par définition, sont généralement des gens qui sont incompétents en finance, ou du moins qui ont une compétence limitée. Alors, au sein des banques, on a dans la Shabi Bank, Harmonis, comme on peut avoir dans d'autres formes de finances déjà installées un peu partout dans le monde, musulmans ou non musulmans, on a des charia boards. Alors, des charia boards, ce sont des comités de supervision d'un charia. Alors, le seul charia board qui existe en France est donc au sein de la Shabi Harmonis. Il est constitué de 3 personnes. Bon, un charia board, c'est toujours un nombre impair. Bon, pourquoi un nombre impair? Parce que on valide ou pas des opérations financières, donc il faut un nombre impair pour obtenir la majorité. Alors, dans ce charia board, puisque j'ai interrogé les membres de ce charia board de la Shabi Harmonis, on a 3 personnes. Ces 3 personnes sont toutes diplômées en droit islamique, soit université Al-Azhar, soit université Zakaria en Afrique du Sud. Donc ces 3 personnes, la compétence première, c'est celle-ci. Deuxième condition, ce sont des personnes qui ont une certaine notoriété universitaire et académique. 2 d'entre eux sont enseignants à l'école de management de Strasbourg et à l'université de droit, spécialistes des droits islamiques, des contrats. Un seul a une expérience dans la finance conventionnelle. Alors, d'après un de ses membres, hein, M. Mohamed Béchir Oulsa, ce que j'ai interrogé particulièrement, il affirme bien que dans ces charia boards, on n'a aucun imam. Hein, aucun imam, ce n'est pas une identité religieuse. Le choix des personnalités se fait sur une double compétence, en FIC d'une part, en finance conventionnelle d'autre part, et, je cite, sur des qualités personnelles, l'ouverture d'esprit, la bonne réputation, la connaissance du contexte dans lequel l'institution opère. Alors, cette connaissance du contexte est très importante dans la mesure où cette finance islamique à la française, puisqu'elle est aussi validée par l'autorité des marchés financiers, et elle a été validée particulièrement par Madame Christine Lagarde, qui a organisé 4 forums de finance islamique entre 2007 et 2011 à Paris-Bercy, auxquels j'ai participé. Donc bon, là, on a eu une caution du gouvernement français. Bon, c'est un petit peu moins le cas maintenant, pour des raisons de choix politiques, et puis aussi parce que depuis 2011, la finance islamique existe, donc c'est peut-être plus la peine aussi de réunir tous les professionnels pour l'installer. Voilà. Alors, cette finance islamique, elle se démarque bien de 2 pôles financiers islamiques, qui sont le pôle de Bahreïn, premier pôle financier, et le deuxième pôle, qui est Kuala Lumpur, évidemment, la Malaisie. Alors, quelles sont les bases de cette légitimité au moment des décisions qui sont prises dans les charia boards? Alors, en France, il n'y a pas de légitimité qu'on pourrait qualifier de légitimité par autorité. Bon, ça veut dire que comme il n'y a pas de banque islamique, le nom ne suffit pas. Par exemple, la Shabi Bank, bon, tout le monde, les musulmans savent que c'est une banque marocaine, mais qu'est-ce qui valide le fait qu'il y a un segment islamique spécifique? Bon, la Shabi Bank, par exemple, sur son site, elle affirme qu'il faut séparer les comptes courants des comptes islamiques. Mais qui garantit ça? Parce que la séparation dans la finance, c'est quand même beaucoup moins net que dans les aliments hein, ou dans les rayons de supermarché. On a beaucoup de difficultés à séparer les placements financiers. Alors comment faire, puisqu'il n'y a pas de réputation hein, bon, dans le monde musulman, il y a une réputation. Par exemple, en Turquie, on sait qu'il y a des grands groupes saoudiens comme Al-Baraka. Bon, Al-Baraka s'est installé, par exemple, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, mais de façon récente. Alors Al-Baraka, par exemple, bon, sur leur site francophone, je cite, ils disent « Nous croyons que la société a besoin d'un système financier éthique et équitable, un système qui récompense les efforts et qui concourt au développement de la communauté. » Bon, tout le monde aura compris que communauté égale Ouma, etc. Bon, le code, on arrive à repérer les banques islamiques en pays musulmans. Bon, ici, en France, la Shabi Bank travaille avec l'intérêt depuis toujours. Donc, qu'est-ce qui poussera un musulman à mettre finalement son épargne dans une banque qui paraît être conventionnelle, même si elle est marocaine d'origine? Alors, on a en France quelques organismes tiers qui assurent la certification pour l'instant. Alors, cette certification ne se fait pas par des fatwas, puisqu'il n'y a pas d'entité religieuse. On a en particulier l'ASERFI. Bon, audit, conformité, éthique et recherche en finance islamique. Bon, c'est très facile à cerner en France parce qu'il y a à peu près moins d'une dizaine de personnes, si vous voulez, qui sont habilitées quasiment à valider les opérations islamiques de par le faible nombre de compétences de ces gens-là. Donc cet organisme tiers va, premièrement, établir un cahier des charges. Bon, donc à partir du Coran et de la Sunna, qu'est-ce qu'on autorise comme opération? Alors, il y en a un certain nombre qui sont répertoriés, Ijara, Mouraba, Mudaraba, etc. Donc, on établit une liste qui sont déjà pratiquées ailleurs. On reprend chaque opération innovante, puisqu'il y a énormément d'innovations. On regarde si elle est conforme aux principes de base. Il n'y a aucun lien avec les clients de la banque, jamais de relation avec les clients de la banque. C'est-à-dire qu'une fois validée, l'opération est lancée. Le client doit faire confiance de façon aveugle, puisqu'il n'a pas les moyens de juger vraiment de la validité d'une soukouk, par exemple. Bon, à partir du moment où on lui dit que c'est une soukouk, une obligation islamique entre l'action et l'obligation sans intérêt fixe, bon, il doit faire confiance. Alors, sur les opérations plus ponctuelles ces dernières années, puisque avant qu'il y ait cette banque islamique sur un petit guichet en 2011, on a eu depuis 2008 des opérations comme ça, coup par coup, qui ont été faites par des personnalités diverses. Bon, donc on a eu par exemple en 2011 le premier placement immobilier qui s'adressait aux ménages musulmans français, qui s'appelait France Soukouk Courtage, donc qui a été lancé par une personnalité bien connue du milieu, qui s'appelle Monsieur Anwar Hassoun. Alors, Monsieur Anwar Hassoun, bon, a une très très bonne réputation. Bon, pourquoi ? Bon, il a une formation d'universitaire en finance islamique de très haut niveau. C'est quelqu'un qui est normalien, bon, diplômé de Sciences Po, qui a un diplôme de Paris Dauphine. Bon, c'est quelqu'un qui est bien évidemment musulman. C'est quelqu'un qui, après, a fait des études de droit des contrats islamiques, mais dans un second temps. Donc c'est d'abord sa compétence professionnelle qui a été retenue. Également son expertise vis-à-vis des autorités françaises. Bon, il est à l'origine aussi des relations avec Paris Europlace. Donc c'est aussi une validité supplémentaire, puisqu'il a fallu quand même avoir la validité d'État français. Alors la conformité à la norme halal, une fois établie par ces personnalités-là, est certifiée par un comité de certification, donc en particulier l'ASERFI. Pour le financement des entreprises, on a eu aussi quelques opérations financières, bon, notamment une cette année qui était assez importante. C'était pour financer une chaîne de restaurants de World Food qui vient du Koweït, qui s'appelle Alpha Rouge. Donc on a mis des soukouks pour 500 000 euros sur 5 ans, avec une rentabilité espérée de 8%. Bon, je dis espérée parce que rien n'est sûr. Si la chaîne de restauration ne fait pas de profit, il n'y a pas de rémunération des apporteurs de capitaux. Bon, ce qui est assez original quand même. Donc ce projet a été lancé par une société qui s'appelle Anas, c'est Monsieur Anas Patel, président de la société Asset Management 570, donc qui a lancé ce projet-là. Bon, il était connu pour avoir fait d'autres montages financiers auparavant. Donc ce projet a été lancé en 2008 sans qu'il y ait véritablement de certification. Les certifications n'arrivent que maintenant et la négociation se fait pour que ces comités de conformité soient les plus reconnus, les plus légitimés, de cette façon-là. Alors la caution des autorités de régulation externe dans la finance, elle est très très importante. Hein. Bon, quand Christine Lagarde avait déclaré en 2009, suite à la crise des subprimes, que la finance conventionnelle devait s'inspirer de la finance islamique, bon, d'une part, elle avait donné un signal très fort pour l'installation de la finance islamique en France, et d'autre part, elle avait engendré des modifications, enfin des négociations qui ont permis le 24 août 2010 de modifier le droit français pour le rendre compatible avec des opérations islamiques. Alors, ce qui était intéressant, c'est que dans ces aménagements, on employait les termes arabes, Ijara, Mourabaha, etc. On employait même un terme d'une opération qui est interdite dans le Golfe, considéré comme non halal, qui est la Tarafoud, qui est autorisée en Malaisie. Donc ça veut dire que l'État français, en rédigeant des aménagements fiscaux et juridiques, ont autorisé des opérations qui n'étaient pas conformes à certaines écoles du droit coranique. Mais, paradoxalement, ils ont aussi proposé la traduction de 44 standards d'un organisme qui s'appelle l'AOIFI, qui est un organisme créé en 1991 à Bahreïn, qui est le plus ancien organisme de conformité des opérations financières. Donc, bon, ce qui est intéressant, c'est que l'État arrive à construire une légitimité en empruntant à la fois aux standards malais, aux standards bahreïni, ils bricolent quelque chose, mais qui fonctionne et qui est en vigueur, etc., et que les ménages musulmans n'ont pas forcément l'occasion de constater, ni dans leurs relations avec le guichet islamique, ni sur les sites internet des banques non plus. Hein. Il faut vraiment regarder les montages financiers. Alors pourquoi ça marche aussi bien, la finance islamique? Pourquoi c'est aussi bien accepté, finalement, maintenant en France? Et pourquoi ça va se développer certainement très très vite? Alors d'une part, parce que cette normativité éthique, elle fait écho à plusieurs autres normativités. Et on est dans un contexte historique où tout est favorable pour que ça se développe. Alors premièrement, la normativité administrative. Bon, on sait que depuis la crise des subprimes, avec cette instabilité, avec cette titrisation à outrance, ces produits dérivés. Donc on sait que la régulation éthique est de plus en plus nécessaire. Donc évidemment, c'est une finance qui ne prend pas de risque, qui sélectionne beaucoup plus le risque que le reste de la finance. Bon, pourquoi? Parce que si on n'a pas de revenus fixes, on a une sélection du risque en amont qui est beaucoup plus forte. La normativité professionnelle, les charia boards fonctionnent comme code de déontologie dans l'entreprise, dans la banque, comme code de transparence. Donc ça, c'est assez intéressant, puisque des codes de déontologie des banquiers, ils sont pour en parler longuement. Bon, là, il y a un contrôle, donc ça fait quand même écho à ça. C'est également intéressant parce que la normativité juridique est respectée. Voilà, on a, par exemple, une transposition pure et simple de produits. L'IJARA, par exemple, c'est du leasing. Bon, purement et simplement. On transpose le droit français, c'est parfaitement adapté. Bon, le droit anglais l'a fait bien avant. Donc, d'un point de vue juridique, il n'y a pas de contre-indication. Il suffit de transposer quasiment le vocabulaire. Les produits de base, je dirais, existent déjà parce qu'il y a une innovation permanente pour trouver de nouveaux produits. Alors finalement, en conclusion, on peut se demander si la France actuellement, discutant sur cette nouvelle normativité éthique, sur ce nouveau service conforme à la charia, est-ce que finalement c'est pas une norme professionnelle qui existe depuis toujours dans l'investissement socialement responsable, dans la finance éthique, dans la finance durable? D'ailleurs, la plupart maintenant des économistes rédigent des articles sur la finance islamique lors de numéros spéciaux sur la finance durable ou sur l'investissement socialement responsable. Donc est-ce que c'est quelque chose de véritablement nouveau? C'est quelque chose qui revient au devant de la scène et qui trouve une opportunité dans le sens où c'est le seul modèle de finance éthique qui est appliqué depuis une trentaine d'années dans le monde, qui fonctionne, qui est très rentable et qui affiche une éthique. Voilà. Alors, bon, on pourrait s'interroger sur la réalité de cette validation, de cette certification. Est-ce que c'est véritablement halal ? Bon, juste un exemple, les produits dérivés, où on ne doit pas revendre une dette qui ne peut pas être honorée, les produits dérivés existent déjà dans la finance islamique par une fatwa qui a été émise par un comité bahreïni depuis 2 ans. Donc ça veut dire qu'on peut titriser, on peut vendre des produits. Alors normalement, on doit titriser une fois, mais si on revend 2, 3 fois, etc., c'est la porte ouverte finalement aux mêmes dérives que la finance conventionnelle. Voilà, donc bon, spécificité, oui, mais... Est-ce que c'est appliqué à la lettre ? Et le manque de transparence et le manque de compétence du public est un handicap très fort pour juger du caractère halal de la finance islamique. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Isabelle.